France Musique. France Musique, guitare, Sébastien Linares.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les studios de guitare, ravi de vous retrouver comme chaque semaine à l'antenne de France Musique. Une émission très spéciale aujourd'hui car nous recevons pas moins de 3 invités, Frédéric Limoges, Orlando Rojas Jiménez et José Ferreira. Ils sont bien sûr tous les 3 musiciens et guitaristes et ensemble ils font tourner la boutique La Guitareria qui n'est pas seulement un magasin de guitare, de partitions, de matériel musical. La Guitareria, c'est le temple de la guitare espagnole à Paris. Un magasin qui a vu défiler tous les grands noms de l'instrument, et pas seulement les grands noms d'ailleurs, mais aussi les amateurs, les aficionados, les étudiants, les professeurs. C'est un véritable carrefour, un lieu de vie, et quel que soit notre rapport à l'instrument ou notre niveau d'implication, on vient y chercher des conseils, des renseignements, on y entend parfois des concerts, on y tourne parfois des clips, des interviews. C'est un lieu qui a une histoire et qui participe à construire l'histoire de l'instrument. Alors pour aujourd'hui, j'ai quasiment laissé les clés à nos invités et les écouter nous raconter leurs histoires de guitare. On aura aussi le plaisir de les entendre jouer pour nous dans nos studios et ils nous parleront de leurs projets respectifs. À 12h50, dans Guitare de légende, on continue notre série de pièces écrites pour le piano mais qui révèlent la guitare et qui se révèlent elles-mêmes une fois transcrites. Et ce sera la sérénade espagnole de Joaquín Malats. Et la semaine dernière, vous avez été assez nombreux à découvrir et à être emballés par le quintet avec guitare de Carlos Guastavino, Jeromita Linares. Eh bien, on va rester dans la couleur de cette instrumentation et commencer cette émission par le quintet de Léo Brouwer.
Thank you.
Le premier mouvement du quintet de Léo Brouwer, très jolie pièce, c'est Miguel Trapaga et le Quatuor à cordes de Moscou, un enregistrement datant de 2008, sorti sur le label Opéra 13. Et c'est vrai que cette formation, le Quatuor à cordes et guitare, lorsque l'écriture est réussie, a quelque chose d'un peu magique. Les couleurs incisives de la guitare qui viennent percer comme ça le bloc soyeux du quatuor, je trouve ça très beau. On aimerait bien avoir encore plus de répertoire parce que ça fonctionne vraiment bien. En 2012, la guitariste chinoise Xu Fei Yang et le quatuor Elias avaient sorti des arrangements de concertos de Bach.
Thank you.
L'adagio du concerto numéro 2 en mi majeur BWV 1042 de Jean-Sébastien Bach dans une version guitare et quatuor à cordes. C'est Xufei Yang et le quatuor Elias, un extrait de leur enregistrement paru sur EMI Classics. Et avant d'accueillir nos invités, on va maintenant écouter un peu du dernier disque du trio In Uno avec l'accordéoniste Bébé Kramer. Je vous avais déjà fait écouter ce super disque, il s'appelle Destinos.
Thank you.
c'était le trio in uno, Giulietta Manini au saxophone soprano, Diego Cardoso au violoncelle, José Ferreira avec nous aujourd'hui à la guitare et l'accordéoniste Bébé Kramer, un extrait de leur disque intitulé Destinos.
France Musique, Guitare Guitare, Sébastien Linares.
Frédéric Orlando et José, bonjour, on est heureux de vous avoir autour de la table.
Bonjour.
Alors, on va vous écouter chacun et ensemble, on a la chance de vous avoir réunis tous les trois. Vous avez pris vos guitares, donc c'est carrément un petit concert que l'on se fait au studio 351 de la Maison de la Radio et de la Musique. Mais avant, j'aimerais qu'on parle ensemble de la guitareria. J'en ai fait une brève présentation tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous me retraciez l'historique de ce magasin.
La guitareria est un magasin de guitare fondé par Isabel Gomez. En 1982, elle a commencé son rêve en faisant cette boutique qui est plus qu'une boutique, a été vraiment un lieu de rencontre entre musiciens, entre guitaristes. Et en fait, comme c'était une amoureuse de la guitare, elle a fait de ce lieu vraiment un lieu unique à Paris, mais un peu, je pense, dans le monde. Voilà, donc on est très heureux de travailler là.
Et donc lorsqu'on rentre dans ce magasin, qui est donc rue d'Édimbourg, rue perpendiculaire à la rue de Rome, on est saisi par cette ambiance particulière, c'est chaleureux, c'est bienveillant. Bon, il y a le fait que vous êtes sympa et que vous savez de quoi vous parlez, mais on sent que les murs sont habités. Alors, comment vous expliquez cette espèce d'ambiance? Je ne suis pas le seul à partager quand on discute avec les guitaristes. C'est souvent ce qui ressort.
Je trouve que la guitareria a la chance d'être visitée par pas mal de gens des univers différents. Ça reste un lieu de rencontre très fort pour les guitaristes. Et c'est tous ces échanges qui se créent sur place, toute la musique qui est jouée, les échanges passionnés autour de la musique, de la guitare, de la problématique de la musique, de la carrière, des élèves, des professeurs, etc. Tout ça, ça crée une ambiance assez unique.
Oui, c'est vrai.
Ça contribue totalement à cette aura qu'a la guitareria.
Et c'est aussi un lieu ouvert, vous y organisez des concerts, on y voit souvent des clips, des interviews, des choses comme ça. C'est aussi une volonté, ça, d'ouvrir non pas seulement à l'achat d'instruments ou de matériel, mais aussi à de la performance ou des tournages ou des choses comme ça.
Je pense que la guitareria, c'est un magasin avant tout, mais il a cette particularité de s'ouvrir aux initiatives des musiciens. Et si on peut filer un coup de main, se rendre disponible, être à l'écoute, au même titre que Isabelle, par exemple, a fortement participé à la création du Festival international de guitare de Paris. Elle était, parce que même avant nous, elle était vraiment la confidente des guitaristes pour beaucoup de changements dans les villes. Je me souviens de Christina Azuma qui devait déménager, ou l'avenue d'un enfant dans un couple, ou un divorce. Elle était l'oreille. Et les gens venaient des fois démonter et repartaient de la boutique un peu plus souriant et avec l'énergie pour se réaliser.
Est-ce que vous défendez une esthétique de guitare en termes d'instruments, je veux dire?
Non, en fait, on vend des guitares classiques et des guitares flamenco un petit peu. Mais non, dans le style d'instrument, c'est vrai que même si on a été, en tout cas Isabelle a été attachée par la lutherie plutôt traditionnelle, on a ouvert le porte aussi à d'autres types d'instruments. Parce que l'important, c'est que justement chaque personne qui vient à la boutique puisse trouver l'instrument qui lui convient. On dit toujours que c'est l'instrument et la personne, le musicien, est une rencontre en fait.
Tout à fait.
Donc voilà, on défend pas forcément un type d'instrument.
Je dis souvent à mes élèves qui veulent acheter une guitare, va à la guitareria, il n'y a pas de mauvaise guitare. Donc ça, c'est voilà, peut-être ça, une esthétique défendue, ah,
ouais.
Non?
Ouais, c'est ce qu'on dit souvent. Je dis aux gens de justement que les guitares qu'on a choisies, en tout cas les instruments avec lesquels on a choisi de travailler et de montrer, ce sont des guitares qu'on a choisies comme musicien déjà à la base, en fait.
Et vous travaillez avec des luthiers, privilégiés quand même. Il y a des luthiers que vous suivez les nouveaux modèles, etc.
Oui.
Donc, avec les luthiers, on essaye de tisser une relation.
Oui.
C'est-à-dire, c'est pas on achète une guitare, on la vend, on touche un chèque, on est content.
Exactement.
Je pense à Jean-Marie Fouilleul, qui travaille avec la boutique, qui travaille avec Isabelle. Je pense à Kazuo Sato. Enfin, c'est. Voilà.
Ça, c'est des gens que vous suivez depuis.
Vicente Carillo, ouais. Qui connaît Isabelle depuis ses. Oh. Qui lui a 14 ans. Enfin, voilà, on essaye de suivre, parce qu'il me semble qu'un luthier évolue. Et dans cette relation de confiance, on peut critiquer à bon escient, parce que nous, on peut avoir un retour, mais si 8 clients sur 10 nous disent « Ah oui, mais là, c'est dur à jouer, là, c'est trop... » C'est notre travail aussi,
de faire le retour,
de ne pas être dans la consensualité, de dire « C'est parfait, juste faire un sourire », mais d'avoir une... voilà, que le luthier puisse avoir matière à rebondir et à... Voilà, sans prendre la main sur sa vision de l'instrument.
Oui, mais c'est un maillon, en tout cas, un lien entre...
Un maillon important, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec les nouveaux interlocuteurs, les nouveaux luthiers qu'on a choisis.
Comment évolue le marché de la guitare classique ?
Je pense qu'en France, on a la chance d'avoir un très bon milieu guitaristique, des très bons guitaristes, des gens qui sont connus partout dans le monde. Moi, qui viens du Paraguay, j'entends des gens qui me posent des questions sur tel ou tel guitariste. Je vais pas donner des noms, mais mais en tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup de noms français qui sont connus dans le monde. Donc ça fait évoluer le milieu, le fait d'avoir tellement de musiciens qui portent un peu l'étendard, en fait, de la guitare, ça fait naître des vocations.
Est-ce que vous avez un souvenir marquant ? J'imagine que vous en avez 100 000 chacun, mais est-ce que chacun, vous avez un souvenir particulièrement marquant depuis l'ouverture de ce magasin, depuis que vous y travaillez ?
Quand j'ai commencé à travailler, donc, Isabelle prenait un malin plaisir à me présenter, en fait, toutes les personnes qui rentraient. Elle connaissait absolument tout le monde. Et moi, je venais de Mâcon, je pensais que les compositeurs, ils étaient forcément morts, etc. Donc là, je voyais par exemple un jour Cardoso, donc j'ai pu découvrir, au même titre que vous pouvez voir sur les réseaux, vous pouvez souvent les voir en vrai à la boutique, en fait.
Moi, je penserais à une phrase qu'Isabelle m'a dit au tout début, toute simple en fait, mais qui m'a touché, qui m'a marqué, qui dit beaucoup, toujours aujourd'hui. C'était tout simple, c'est voilà, quand on vend une guitare, on vend un rêve.
Très bon.
Du coup, pour moi, ça dit tellement.
Bah, pour moi, en fait, ça a été la rencontre avec un musicien dont j'étais fan, en fait. Et c'est un musicien, un compositeur, auteur-compositeur cubain, qui s'appelle Sylvie Rodriguez. Il n'est pas très connu dans les milieux français, mais en Amérique latine, c'est un peu comme quelqu'un de mythique, en fait, c'est une légende. Et en fait, de le voir arriver à la boutique, de pouvoir parler avec quelqu'un qui est vraiment... c'est une idole, en fait, ouais. Pour moi. Et ça a été un moment magique.
Alors, on va maintenant faire mieux connaissance avec vous musicalement. Je vous ai demandé à chacun de nous porter une musique qui vous inspire, que vous aimez particulièrement. On va en passer un bout et vous nous dites ce que c'est, ce que ça représente pour vous. José Ferreira, c'est votre choix. On est en train d'écouter quoi ?
Alors là, on écoute un morceau composé par Tom Jobim qui s'appelle Modinha, qui est une chanson à la base, interprétée par Rafael Rabelo, qui a été l'un des plus grands guitaristes au Brésil, je pense, à mon avis. Et qui est décédé très jeune, à l'âge de 33 ans, en 95. Cet enregistrement ici, c'est un album dédié à la musique de Tom Jobim. Et qui a été enregistré en 93, que j'aime particulièrement. Bon, pas que ces disques, mais plusieurs autres albums de Rafael Rabelo, qui a marqué un peu l'histoire de la guitare brésilienne. C'est l'histoire d'un génie qui est mort très, très jeune, mais qui, en plus d'un grand soliste, a été un grand accompagnateur, qui a joué avec la plupart des grands chanteurs du Brésil, avec Radamés Yantali, il a collaboré avec Tom Jobim, avec la crème de la crème de ces années.
Et un représentant de la guitare donc à 7 cordes.
Et c'est une guitare à 7 cordes en plus. Ouais.
Thank you. Sueño en la Foresta, c'est le choix d'Orlando Rojas Jiménez. Alors expliquez-nous ce que ça représente pour vous, cette musique.
Le fait d'avoir le compositeur qui vient de la même ville que moi, d'avoir un guitariste de la classe mondiale de John Williams, que j'ai écouté en 94. En fait, j'ai découvert ce guitariste en 94 à Asunción. Il avait fait un concert, il avait fait deux concerts en fait là-bas, un pour les riches et l'autre pour le peuple. Et c'est, c'est à ce concert-là que j'ai été. Et en fait, ça a été une claque. C'était incroyable. En fait, un musicien impressionnant. Quand j'ai écouté cette version de Sueño en la Floresta d'Agustín Barrio, ça a été vraiment une. Je me disais, waouh, est-ce que c'est un mec du Paraguay qui a fait ça? et en fait, ça a été, pendant très longtemps, ça a été vraiment la pièce que j'aurais voulu apprendre à la guitare, mais j'ai jamais osé. Mm-hmm. Je sais pas, jusqu'aujourd'hui, ça reste encore. Ah oui, ouais. Jusqu'aujourd'hui, ça reste encore une pièce taboue, ou je sais pas, c'est très difficile à décrire, mais en tout cas, ça a été une pièce qui m'a énormément inspiré.
On termine avec votre choix, Frédéric Limoges.
J'ai choisi Yemen El Eri de l'album Marines de Ricardo Moyano. J'ai eu à rencontrer Ricardo Moyano personnellement et ça a changé un petit peu ma conception des choses, puisque c'est un compositeur, guitariste, arrangeur de génie argentin. Que j'ai vu en concert et en fait je me suis aperçu pour la première fois que le concert en fait c'était l'apéro parce que après ça joue jusqu'à 6h du matin et là je me suis aperçu que c'était plus une fonction de guitariste mais réellement un mode de vie et ça m'a beaucoup plu et surtout voilà il étant argentin là je vous propose une plage de musique turque. Et il a un intérêt aussi, comme moi, pour les musiques du monde. Et je trouve qu'il arrange ça très bien et que la guitare est un de ces instruments évocateurs qui peut aborder beaucoup de sujets. Et bien sûr, la musique orientale, comme c'est le cas sur ce titre.
On va passer maintenant à la partie live de cette émission. Et là, les amis, eh bien, je vous laisse le micro et nous présenter ce que vous allez nous jouer.
Alors, je vais vous présenter la pièce que je vais jouer, qui est un coup de cœur il y a quelques années. Ça s'appelle Shirinam Sobze. C'était juste deux ouds qui s'entremêlaient et qui ont donné cette espèce de polyrythmie ascendante, un petit peu qui, ce truc qui tourne, là, qu'on retrouve souvent chez les soufis ou chez les Iraniens en général, qui m'a beaucoup plu et que j'ai essayé de mettre en guitare. Thank you.
je vais jouer un morceau qui s'appelle Melancia. C'est un drôle de titre, ça veut dire pastèque. Cette musique me suit, me revient dans ma tête fortement. J'ai envie de préparer ça pour cette émission. Merci Sébastien pour l'invitation.
Je vais jouer une pièce que j'ai composée. C'est un morceau qui s'appelle Tarde Fria, qui veut dire un après-midi froid. C'est une pièce que j'avais faite et que je joue qui s'appelle Isondo. Donc c'est un morceau qu'on a arrangé à trois, qui a été même enregistré et tout. Donc voilà, c'est le plaisir de vous jouer ça. Thank you.
Allez, maintenant, clou du spectacle, vous allez nous jouer un trio, un arrangement de votre cru, Ariel Ramirez, Alfonsina et Elmar. Un grand merci à tous les trois d'être venus dans nos studios. Vous écoutez France Musique, il est 12h50.
Guitare de légende, Sébastien Linares.
Aujourd'hui, la sérénade espagnole de Joaquín Malats. En musique, comme en amour, il y a parfois des coups de foudre qui changent le cours des choses. Cette sérénade espagnole, Joaquín Malats l'a d'abord écrite pour orchestre. Elle est issue de la suite Impressions d'Espagne et s'inscrit totalement dans le mouvement de la deuxième renaissance de la musique espagnole, un mouvement mené par Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Joaquim Turina, Enrique Granados et quelques autres qui puisent dans les racines folkloriques pour réinventer la musique ibérique. Malats était un pianiste virtuose de l'école catalane. Il est né en 1872, non loin de Barcelone, une ville où il étudia avec Juan Bautista Pujol dans sa classe du conservatoire municipal, une classe qu'avaient également fréquenté d'autres grands musiciens comme Enrique Granados ou encore Ricardo Viñes. Pujol était un éminent professeur, très influent, adepte du piano qui chante et ouvert à la modernité, à l'image de cette ville si inspirante qui était en train d'être ornementée par l'architecte Gaudi. Joaquín Malats continue ensuite ses études au Conservatoire de Paris, devient un des pianistes les plus en vue de son temps et se lie d'amitié avec Albéniz. Il sera l'interprète privilégié et le dédicataire d'une grande partie de son chef-d'œuvre Iberia. Je suis en train d'écrire Iberia principalement pour vous et grâce à vous, écrira le compositeur à l'attention de son interprète. Au sein de sa suite d'orchestre, cette sérénade étincelle. Malats décide alors d'en publier sa version pour piano et ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd mais plutôt dans celle du guitariste Francisco Tárrega qui décidément possède un flair très sûr pour repérer les mélodies qui vont se révéler et s'enrichir d'une dimension supplémentaire à la guitare. Lorsque Tárrega transcrit une pièce, celle-ci semble retourner chez elle. Avec l'aide de son élève Daniel Fortea, il adapte donc la partition de piano pour la guitare, et entre les notes et l'instrument, c'est le coup de foudre. Le compositeur du Recuerdos de la Alhambra, du Caprice arabe, d'Adelita, la fameuse sonnerie Nokia, de Lagrima, est un mélodiste accompli, il se trompe rarement, et la pièce composée par Malats lui a tapé dans l'oreille au même titre qu'Astorias d'Albéniz ou qu'un nocturne de Chopin. C'est une partition légère et élégante qui doit être jouée avec sophistication, comme nous le montre Malats lui-même au piano. On l'entend ici, la sérénade est destinée à charmer. La mélodie doit être chantante, jouée avec vocalité, glissante et ornementée. Elle doit dégager un parfum nocturne et des couleurs qui font rêver. Elle doit faire sauter le verrou de la raison et entraîner son auditeur dans un tourbillon passionnel. Et pour cela, la guitare est une arme idéale. Thank you. Après le chant, la danse. On se quitte avec quelques notes de l'éloge de la danse de Leo Brouwer comme un retour à la réalité après les nuages voluptueux de la sérénade. La semaine prochaine, on revient dans la sphère de Django Reinhardt et on parlera notamment du spectacle orchestré par Samuel Strouk, Django 70. À la réalisation aujourd'hui, Arthur Rérol, Lucas Derode à la technique et à la prise de son et l'aide d'Annick Aumier. Très bon week-end à vous tous. N'oubliez pas de visiter le site et l'appli Radio France, de vous abonner à nos podcasts, de regarder nos vidéos, de consulter nos programmes en détail et bien sûr, de nous écrire.
France Musique.